Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 15h à Kinshasa, 16h à Kalemi dans le Tanganyika. Voici les titres de votre journal. En Ituri, au moins 6 personnes ont été tuées et 7 autres portées disparues depuis mardi par les groupes armés dans le territoire de Djougou. Ces violences qui inquiètent certains acteurs, la société civile intervient après environ une semaine de la signature du protocole de paix par les groupes armés locaux à Arou. Dans la province de la Moungala, des graves inondations sévissent depuis près des mois à Bumba, où les eaux du fleuve Congo ont quitté leur lit. Difficile de circuler dans ces quartiers sous eau, sinon à l'aide des pirogues. L'invité de ce journal est le coordonnateur provincial de la Barza intercommunautaire sur la paix dans le Tanganyika. Ludovic Kitengeya parle des efforts que sa structure a menés dans la cohabitation pacifique entre les communautés Twa et Bantou. Mesdames, Messieurs, bonjour. En Ituri, au moins 6 personnes ont été tuées et 7 autres portées disparues depuis mardi par les groupes armés pendant leur incursion dans au moins 5 villages dans les territoires de Djougou. Ces violences qui se produisent après environ une semaine de la signature du protocole de paix par les groupes armés locaux à Arou inquiètent certains acteurs de la société civile. Ces derniers demandent aux leaders de ces milices de sensibiliser leurs hommes au respect strict de leurs engagements. Isaac Remoyope pour plus de détails.
Les derniers cas d'exaction attribués à la milice Kodeko ont été enregistrés mercredi dans les villages lacustres de Mouvaramou, dans les territoires de Djougou. 3 pêcheurs ont été abattus par ces hommes armés, rapportés des sources de sécurité. Ces milices ont également emporté tous les poissons des victimes et se sont retranchés dans leur bastion vers la montagne de Djaïlo. Le mardi dernier, 3 autres personnes ont été tuées par des présumés miliciens de la Kodeko dans les villages de Kbaoui. Les victimes sont des déplacés de guerre du site de Savo qui étaient en quête de vivres, précise des sources de sécurité. Un autre groupe d'assaillants de la Kodeko a fait incursion mercredi à Mazé où ils ont saccagé 6 maisons avant d'être repoussés par les FARDC. Ces miliciens ont également tiré plusieurs coups de feu le même mercredi à Djissa. Un agriculteur a été blessé et une panique a gagné la population locale. Les casques bleus de la MONUSCO ont aussi déjoué mardi une attaque de la milice Zaïre dans les villages d'Eli. Face à toutes ces exactions, la société civile demande aux leaders des milices signataires des protocoles de paix de sensibiliser leurs hommes à respecter leurs engagements pour que la paix soit effective en Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, dans les territoires de Beni, une série de dialogues communautaires sont organisés dans le groupement de Bassoa Madiwe. Les représentants de toutes les couches sociales et membres des services de sécurité prennent part à cette activité qui se tiendra de manière rotative à Kantine, Mabalako et Visiki. C'est dans l'objectif de trouver ensemble des pistes de solutions aux problèmes sécuritaires dans la zone. Marc Marofimbo pour plus de précisions.
C'est sur demande de la société civile locale que l'administration du territoire de Beni a initié ce dialogue. C'est dans le but d'analyser ensemble la situation sécuritaire qui se dégrade davantage dans la zone et proposer de commun accord des pistes de solutions. Depuis quelques semaines, un activisme des Maïmaï et des jeunes du milieu transformés en bandits armés est observé dans la région. Quelles sont les ententes du conseil local de la jeunesse après ces assises? Elkas Kakule Kisala, président du conseil local de la jeunesse du groupement Bassoa Madiwe.
En fait, la population de Madiwe veut qu'au cours de ce dialogue, tout problème trouve des solutions, surtout les intimidations des services de sécurité, les tortures et d'autres tracasseries trouveront des solutions selon la population. D'une manière précise, les tracasseries dont nous parlons sont les tracasseries des services de sécurité, des barrières, en faisant payer des 500 francs, malheureusement qui n'ont pas de taxes, des trascom, mais qui sont vraiment statiques dans des points de contrôle et des roulages qui ne viennent que pour rassurer la population. Nous pensons qu'avec l'arrivée de l'administrateur, il y aura en fait la solution.
Notons que cette série de dialogues rotatifs qui commence ce mercredi à Kantine se poursuivra jeudi à Mabalako, chef-lieu du groupement de Bassoa Madiwe, pour se clôturer à Visiki ce vendredi 9 juin. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Dans la plaine de la Ruzizi, en territoire d'Ouvira, les notables des villages de Ruenena et Mataba se disent préoccupés en matière de protection des civils liés au mouvement des rebelles burundais dans leurs entités. Ils l'ont exprimé à une mission conjointe des forces de l'ONU et des FARDC qui est rentrée hier mercredi de la région. La mission conjointe avait pour objectif d'aller évaluer la situation de protection après avoir reçu des informations sur ces mouvements des rebelles burundais dans la région. Des détails avec Fiston Ngoma Mayabala.
Depuis une semaine, des éléments rebelles burundais continuent à errer dans la région de Ruenena et Mataba, dans la plaine de la Ruzizi. C'est Selon des sources locales, les troupes de l'armée régulière burundaise FNDB ont mis en déroute ces rebelles pendant que ces derniers tentaient de traverser la rivière Ruzizi pour entrer au Burundi voisin. Des informations recueillies auprès des 33 notables locaux, dont 12 femmes pendant cette mission conjointe, font état des 3 de ces rebelles burundais capturés pendant cette opération militaire, tandis que 28 autres ont disparu dans la forêt environnante. Selon ces acteurs locaux, cette présence des groupes armés étrangers et locaux a eu un impact négatif sur la protection des civils, y compris sur l'accès humanitaire. Beaucoup d'ONG locales et internationales ont limité leurs activités dans la plaine de la Ruzizi, craignant pour leur sécurité. Par ailleurs, les habitants ont recommandé à la force de l'ONU et au FRDC d'intensifier les patrouilles conjointes dans la région pour dissuader les forces négatives. L'assistant des liaisons communautaires de la MONUSCO a saisi l'opportunité de sensibiliser les populations locales de Rwenena et Mataba sur le mécanisme de protection des civils, dont les systèmes d'alerte précoce pour contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire. Douvira Fiston, Mayaba, la Radio Kapi.
À Bumba, dans la province de la Mongala, de graves inondations sévissent depuis près d'un mois. Les eaux du fleuve Congo ont quitté leur lit. Elles ont submergé plusieurs quartiers riverains coupés du centre-ville. Plusieurs habitations, bâtiments publics, champs et des points de vente sont encore inondés. Difficile de circuler dans des quartiers sous eau, sinon à l'aide des pirogues. Le point avec Paul Richard Malengela.
Selon les messages des zones de santé de Bumba, la montée des eaux s'est ralentie. Docteur José Tebandimé dit cependant craindre prochainement une épidémie de maladies d'origine hydrique avec les eaux qui stagnent encore, polluées par les latrines inondées. Les données recueillies par les relais communautaires en collaboration avec les agents des actions humanitaires font état de plusieurs centaines de ménages affectés. Les quartiers les plus touchés sont Lokolé, Mobutu et Bopoto au nord-est de Bumba. Il y a aussi Lokile, Moloa et Lingodie au sud de la ville. Conséquence, la route nationale numéro 6 entre Lissala et Bumba reste impraticable au niveau du pont Moloa. L'ouvrage a été submergé et le passage se fait par des pirogues qui monnaient ce service. Difficile encore de circuler dans certains quartiers. À Lokile, Moloa par exemple, les élèves traversent le quartier à bord des pirogues pour se rendre à l'école, a indiqué un témoin. Ainsi, l'administrateur du territoire s'insurge-t-il contre les constructions anarchiques, lesquelles, selon lui, bouchent les caniveaux et aggravent cette situation chaque année. Gabriel Iloukou plaide plutôt auprès des autorités nationales pour un appui urgent en vivres, médicaments et matériaux de construction en faveur des ménages sinistrés à Bumba Centre ainsi que le long des rivières Loeka et Itimbiri. Bondaka, pour Chamanengela, Radio Okapi.
Au sud Kivu, tous les enfants de 0 à 5 à 9 mois sont appelés à se faire vacciner contre la poliomyélite. Cela à partir de ce jeudi jusqu'à samedi prochain. L'annonce a été faite par la ministre provinciale de la Santé lors d'un point de presse hier mercredi à Bukavu. Cette année, la campagne contre la poliomyélite est plus justifiée par la détection de poliovirus dérivés dans plusieurs provinces de la RDC, dont le Sud Kivu. Écoutez la ministre provinciale de la Santé du Sud Kivu, Kinja Mwendanga, au micro de Cynthia Bashizi Nabizana.
Jeudi le 8 juin 2023, la campagne de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu commence. Et donc les enfants ciblés sont ceux et celles dont l'âge est compris entre 0 et 5 ans. 1,640 000 enfants sont attendus. La campagne se fait de porte à porte et les vaccins est vraiment gratuit. Et donc nous invitons tous les parents à disponibiliser les enfants pour recevoir ces vaccins et ainsi leur éviter la maladie de poliomyélite qui est grave, qui rend infirme toute la vie. Tous les parents doivent apprêter leurs enfants, s'ils ne sont pas à la maison, de laisser le message à ceux qui gardent les enfants, vraiment de les disponibiliser pour recevoir ces vaccins qui est d'une importance capitale pour ne pas exposer nos enfants à devenir infirmes toute la vie.
Au nord Kivu, plusieurs centaines de familles vivant dans 3 blocs autour de la prison centrale de Munzenze à Goma sont priées de quitter la zone en faveur d'une société privée. La société Breeding Business Association BBA, entendait Association d'entreprises relais, construit la prison moderne de Munzenze délocalisée à Sake. Cette décision du gouverneur de province est contenue dans un communiqué signé par son porte-parole et rendu public hier mercredi à Goma. Le point avec Gabriel Wamenya.
Le gouverneur de province, Constant Dimakongba, justifie sa décision par les débuts des travaux de clôture de la concession de la prison Mounzenze. Selon lui, c'est suivant l'accord signé entre le gouvernement de la RDC et la société SBB basée à Goma. À en croire l'esprit du communiqué, le gouvernement congolais avait cédé en contrepartie à la dite société au moins 7 hectares de terre aux alentours de l'actuelle prison de Mounzenze. Les populations concernées par cette mesure sont donc priées de prendre toutes les dispositions utiles avant que les mesures coercitives à leur endroit ne soient prises. Poursuit les communiqués relayés par les porte-parole du gouverneur, le lieutenant-colonel Njike Kaiko.
Sur instruction de son excellence, madame le ministre de la Justice, l'autorité provinciale instruit tous les occupants illégaux de la dite concession et des réserves voisines de l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer volontairement le lieu dans un délai raisonnable afin d'éviter tout désagréable.
Rappelons que l'autorité provinciale est restée muette quant à la question de savoir les liens et les nouveaux sites de la relocalisation de ces nombreuses familles. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Comment améliorer l'implication et la participation de la femme dans le secteur minier au Nord Kivu? C'est le but du projet Mwanamuke Namadini, Entendez Femmes et Mines, lancé hier mercredi à Goma. Ce projet de l'initiative des femmes entrepreneurs pour le développement durable vise à soutenir le relèvement socio-économique des femmes dans les activités minières pour leur autonomisation. La division provinciale des mines a révélé au cours du lancement de ce projet que 2,3% seulement des femmes sont impliquées dans l'exploitation minière artisanale. Bauma Kachongwa, chargé des programmes à l'IFDD, donne d'autres détails au micro de Denise Lukesu.
La femme n'était pas suffisamment impliquée dans le secteur minier. Au vu des données actuelles, il n'est pas vraiment possible de pouvoir déterminer à quel niveau la femme est suffisamment intégrée. Alors, nous avons lancé ce projet dans le but d'améliorer l'implication et la participation de la femme dans le secteur minier. Nous allons nous focaliser plus sur quelques bénéficiaires, notamment les femmes de coopératives et des associations intervenant dans le secteur minier, des ONG locales et associations qui traitent de la question du genre et de l'intégration et l'autonomisation de la femme, mais aussi des services et structures différentes qui, services étatiques et structures qui interviennent directement ou indirectement dans le secteur minier, où nous allons essayer de discuter sur les défis, les enjeux, les perspectives liées à l'implication de la femme dans le secteur minier.
Notez que le projet Femmes et Mines qui s'étale sur une année est exécuté avec l'appui financier de l'organisation Open Society Foundation. Au Congo central, les enseignants du primaire de la ville de Matadi se disent mécontents en rapport avec la ponction des montants de 20 000 francs congolais sur les 50 000 francs congolais qui leur sont destinés en guise de la prime de la gratuité. D'après le préfet de l'EP2, Kia Bouboua, une des écoles conventionnées protestantes de la ville de Matadi, les enseignants ne perçoivent que 30 000 francs congolais depuis que l'État congolais a initié cette prime il y a de cela 10 mois. Léon Kiawete appelle les autorités compétentes à se saisir de cette situation pour savoir la destination que prend les 20 000 de la prime réajustée. On l'écoute au micro de Nana Plurich Mambou.
Sur listing, chaque enseignant devrait normalement toucher 50 000 francs congolais chaque mois comme prime de la gratuité via gouvernement national. Mais les 50 000 francs ne nous arrivent pas. Quand nous allons à la paye, c'est 30 000 francs qu'on nous donne. Nous ne comprenons pas. Est-ce que c'est de la part des gens qui gèrent ces fonds et nos banques payeuses telles que TMB? Est-ce que c'est le CECOPE qui freine cette opération pour pouvoir payer la différence de 10 mois à chaque enseignant, soit 200 000 francs congolais à chacun? Le blocage se situe à quel niveau? C'est comme ça, nous lançons un SOS au gouvernement central de voir un peu ces problèmes. Pourquoi? Parce que trop c'est trop. C'est l'argent des enseignants, c'est inscrit noir sur blanc sur listing, c'est un détournement pur et simple. Pourquoi? Parce que quand l'État écrit quelque chose sur listing, en tout cas, 5 sur 5, cet argent doit parvenir aux gens qui doivent le bénéficier. Alors, la question que nous sommes en train de nous poser, où va cet argent des enseignants, les 20 000 francs congolais?
Contacter les directeurs provinciaux de la Direction nationale de préparation des paix des enseignants a indiqué que les 20 000 francs congolais sont un ajout que le gouvernement a fait aux enseignants du primaire depuis les mois d'août et septembre de l'année 2022. Pour Célestin Ebale Mokemba, ces fonds ont été mal sous-missionnés. En lieu et place de les envoyer à la banque Tembe qui paie des enseignants, cet argent se retrouve par erreur au niveau de la banque Equity BCDC. Les responsables provinciaux de la DINACOP Congo Central affirment par ailleurs que la banque Equity Bank est déjà saisie pour le renvoi de ses fonds à la banque centrale.
Actualité internationale.
Au Sénégal, vidéos et témoignages se multiplient. Des hommes en civil sont descendus des pick-up armés et ont chassé des manifestants lors des troubles et ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Et puis devant le Parlement marocain à Rabat hier mercredi, ils étaient des centaines de manifestants venus protester contre la visite d'Amir Ohana, chef du Parlement israélien. Ce dernier effectue une visite qualifiée d'historique. Il s'agit en effet du premier déplacement officiel d'un président de Parlement israélien dans un pays musulman.
L'invité.
L'invité de ce journal est le coordonnateur provincial de la Barza intercommunautaire sur la paix dans le Tanganyika. Ludovic Kitengeya parle des efforts que sa structure a menés dans la cohabitation pacifique entre les communautés Twa et Bantou dans la province du Tanganyika. Il s'entretient avec Paul Mounanga.
Monsieur Ludovic Kasongo Kitengeya, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelles sont tout d'abord les multiples actions que vous avez pu mener dans la province du Tanganyika avec votre plateforme, la Barza Intercommunautaire?
La Barza Intercommunautaire, qui est une plateforme qui s'occupe de la résolution des conflits, nous sommes dans la paix, la sécurité et la sauvegarde culturelle du Tanganyika. Et alors, nous avons réalisé autant d'activités depuis 2019 jusqu'à ces jours. De 2019 à 2022, nous avons œuvré comme partenaire de la mission onusienne la MONUSCO. Et là, c'était dans les territoires de Kabalo, territoire de Manono, et nous nous sommes encore beaucoup plus focalisés dans les territoires de Nyonzou, là où nous avions travaillé, dans les secteurs sud de Nyonzou, dans la sensibilisation, la conscientisation, pour permettre une cohabitation pacifique entre Batwa et Bantou.
Oui, vous avez beaucoup milité pour la paix, vous venez de le dire, et la réconciliation entre les communautés Twa et Bantou dans la province du Tanganyika. Dites-nous, comment êtes-vous parvenu à cette mission?
D'abord avec la MONUSCO, je vais encore me permettre de dire que nous avons été partenaires et c'est dans la continuité de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix. Et là, c'est la Barza intercommunautaire qui a été à la hauteur. Même à Nyonzou, quand les agences des Nations Unies avaient été expulsées de Nyonzou par les communautés de Nyonzou. C'est notre Barza intercommunautaire qui était descendu à Nyonzou. Dans une mission d'au moins 30 jours, nous avions parlé avec toutes les couches de la population pour la paix et nous avions fini par convaincre cette population et les agences des Nations Unies, les ONG internationales et les ONG locales qui étaient déjà expulsées étaient en retourné à Nyonzou. Il n'y a pas deux semaines que je viens de l'intérieur. Et là, c'est pour rencontrer encore en territoire des Kalemi, les seigneurs de guerre, notamment M. Kaomba, qui est un seigneur de guerre le plus redoutable en territoire des Kalemi, puisque c'est un toit. Les rencontrer en cours de route, s'il a une machette en main, on sous-entend qu'il y a quelque chose de mal qui va se passer devant vous.
Et vous avez aussi organisé un match de foot entre les deux communautés en conflit.
Nous avons fait autant d'activités, et la sensibilisation, la conscientisation, et nous avions aussi organisé les matchs de rapprochement entre Batwa et Bantou. Vous savez, c'est quelque chose qui a duré depuis 2013 jusqu'à nos jours. Les communautés Bantou et Twa ont certifié de leur propre bouche que ça, c'est un événement inoubliable, puisqu'ils s'étaient rappelés des jeux qu'ils pouvaient jouer ensemble. C'était en 2012-2013, avant que ces événements de triste mémoire ne tombent dans notre province du Tanganyika. Ce match de rapprochement, Batwa-Bantou, ça a été quelque chose qui a revivé encore les esprits des gens pour voir que nous allons vers la paix.
Vous avez rencontré, je crois, beaucoup de chefs de guerre, toi comme Bantou. En les rencontrant, vous sentiez-vous vous exposer à un danger quelconque?
Vous savez, je suis un expert en résolution des conflits. Je n'y vais pas comme comme quelqu'un qui ne connaît rien de ce qu'il est en train de faire. Il y a des méthodes. C'est tout un enseignement théorique que vous devez changer en pratique puisque vous êtes sur le terrain. Vous ne pouvez pas vous hasarder devant un monsieur comme celui-là qui mangeait la chair humaine, qui buvait le sang humain et vous aventurer de les rencontrer sans au préalable appliquer certaines techniques de résolution des conflits, de facilitation.
Qu'est-ce qu'il vous faut pour bien mener vos actions qui sont celles de la recherche de la paix?
Je pense que le problème et le défi que nous avons, nous, comme Barzin intercommunautaire, c'est les moyens. Et aujourd'hui, quand vous voyez même nos gouvernements, les budgets qu'ils sont en train de voter et les maigres moyens qu'ils peuvent mettre pour la résolution des conflits.
Monsieur Ludovic Kasongo Kitengeya, je vous remercie.
C'est plutôt moi qui vous remercie.
C'était notre invité, le coordonnateur provincial de la base intercommunautaire sur la paix dans le Tanganyika. Ludovic Kitengeya s'entretenait à Kalemi avec Paul Emunanga. Fin de ce journal, merci de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.